Vous écoutez, on lit pour vous.
22 septembre, semaine de l'égalité des sexes au Canada. Un texte de la rédaction paru le 15 août 2025 sur le site web Femmes et égalité des genres Canada. La quatrième semaine de septembre marque la semaine de l'égalité des sexes au Canada. C'est un moment pour souligner les progrès accomplis en matière d'égalité des genres, célébrer les réalisations des femmes et réaffirmer l'engagement du Canada à combler les écarts persistants qui freinent trop de personnes. La Semaine de l'égalité des sexes a été instaurée par le projet de loi C-309, la loi sur la Semaine de l'égalité des sexes, entrée en vigueur le 21 juin 2018. Chronologie de l'égalité des sexes et des genres, 1900-2025. 1903. Emma Baker, première femme à recevoir un doctorat d'une université canadienne. 1916. Le 29 janvier, les femmes du Manitoba deviennent les premières au Canada à voter dans une élection provinciale. 1918. Certaines femmes obtiennent le droit de voter aux élections fédérales. 1921. Agnès MacPhail, première femme élue à la Chambre des communes. 1929. Le 18 octobre, la décision historique d'inclure les femmes dans la définition légale de « personne » est rendue par la plus haute cour d'appel du Canada, grâce au célèbre 5. Cette victoire marquante sera connue sous le nom de l'affaire « personne ». 1969. Décriminalisation de la grossière indécence et de la sodomie pour les adultes consentants de 21 ans et plus. Le premier Code criminel du Canada, 1892, comprenait des infractions interdisant la grossière indécence et la sodomie. 1970. Le rapport de la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada est déposé au Parlement. Il comprend des recommandations sur la mise à jour du système législatif et sur des questions cruciales pour les femmes, telles que la pauvreté, le droit de la famille, la loi sur les Indiens et la nécessité de représenter les femmes à l'échelon fédéral. 1971. Création du poste de ministre responsable de la condition féminine. 1976. Le Bureau de la coordonnatrice de la condition féminine devient un organisme ministériel du gouvernement fédéral le 1er avril 1976. 1976. Roberta Jameson devient la première femme autochtone du Canada à obtenir un diplôme en droit. 1977. Adoption de la loi canadienne sur les droits de la personne, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe et garantit aux femmes un salaire égal pour un travail de valeur égale. 1977. Modification de la loi sur l'immigration pour que les homosexuels ne figurent plus dans la liste des catégories inadmissibles. 1979. Le 18 octobre 1979 devient la journée de l'affaire Personne, afin de souligner le 50e anniversaire de l'affaire Personne. Création des prix du gouverneur général en commémoration de l'affaire Personne afin de rendre hommage à des Canadiennes qui ont contribué d'une façon exceptionnelle à la promotion de l'égalité des sexes au Canada. 1981. Le Canada ratifie la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de l'ONU. 1982. Signature de la Charte canadienne des droits et libertés qui inclut le sexe comme l'un des motifs de discrimination interdit. 1983. L'adoption du projet de loi C-127 fait de l'agression sexuelle et du viol un crime dans le contexte du mariage. 1985. Le projet de loi C-31 vise à modifier la loi sur les Indiens. L'un des changements les plus importants concerne le rétablissement du statut d'Indien pour les femmes qui l'ont perdu en épousant un homme n'ayant pas ce statut. 1991. La loi sur une journée nationale de commémoration institue une journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, le 6 décembre. 1992. Le gouvernement du Canada désigne le mois d'octobre comme le mois de l'histoire des femmes pour célébrer les réalisations exceptionnelles des femmes tout au long de l'histoire du Canada. 1992. Fin des restrictions des forces armées canadiennes concernant le service des homosexuels. 1993. Pour la première fois dans l'histoire du Canada, une femme devient première ministre du Canada. Kim Campbell devient la première femme à assumer ses fonctions. Jusqu'à ce jour, elle reste la seule femme à avoir occupé ce poste. 1995. Publication du plan fédéral pour l'égalité entre les sexes et entrée en vigueur de la loi sur l'équité en matière d'emploi. 1995. Le Canada adopte la déclaration et le programme d'action de Beijing. Le gouvernement du Canada s'engage ensuite à inscrire l'analyse comparative entre les sexes plus dans la prise de décision. Il s'agit du programme le plus inclusif en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes à ce jour, et il se concentre sur des questions importantes telles que l'égalité dans la participation et le leadership politique, l'accès à l'éducation, les droits reproductifs et les soins de santé, et l'aide aux femmes victimes de violences fondées sur le sexe. 1995. La Cour suprême juge que les droits à l'égalité garantis par la Charte s'étendent à l'orientation sexuelle. 1996. La loi canadienne sur les droits de la personne est modifiée pour ajouter l'orientation sexuelle comme motif de discrimination. L'orientation sexuelle est ajoutée à la Charte canadienne des droits et libertés. 2000. La loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations s'applique aux couples de même sexe. 2001. La Commission canadienne des droits de la personne recommande au Parlement de mettre en place un système proactif d'équité salariale afin que les femmes et les hommes reçoivent un salaire égal pour un travail égal, sans qu'il soit nécessaire de déposer une plainte pour l'obtenir. 2004. Création du comité permanent de la condition féminine à la Chambre des communes. 2005. Le mariage entre personnes de même sexe devient légal au Canada en vertu de la loi sur le mariage civil. Le Canada devient le quatrième pays à sanctionner officiellement le mariage entre personnes de même sexe à l'échelle nationale. 2005. La docteure Nadine Caron devient la première chirurgienne autochtone au Canada. 2009. La première marche transgenre au Canada est organisée dans le cadre de la Fierté de Toronto. 2010. La loi favorisant l'équité entre les sexes relativement à l'inscription au registre des Indiens, projet de loi C3, reçoit la sanction royale et les changements entrent en vigueur en janvier 2011, ce qui permet aux petits-enfants admissibles des femmes qui ont perdu leur statut parce qu'elles ont épousé un homme non-indien d'être inscrits. 2011. Sous le leadership du Canada, les Nations unies adoptent officiellement une résolution désignant une journée internationale de la fille, le 11 octobre. 2015. Le premier poste de ministre de la condition féminine à part entière est créé à l'échelon fédéral. Vous écoutez 22 septembre, semaine de l'égalité des sexes au Canada. Un texte de la rédaction paru le 15 août 2025 sur le site web Femmes et égalité des genres Canada. 2015. Pour la première fois, un nombre égal d'hommes et de femmes est nommé au cabinet. 2015. Le gouvernement du Canada lance l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. 2016. Le premier ministre nomme un conseiller spécial sur les questions LGBTQ2 et, peu de temps après, crée ce qu'on appelle désormais le secrétariat 2ELGBTQI+. Le mandat du secrétariat 2ELGBTQI+ est d'aider le gouvernement fédéral à trouver des voies pour redresser les injustices passées et présentes subies par les personnes 2ELGBTQI+ au Canada. Depuis, le gouvernement du Canada a pris de nouvelles mesures pour bâtir un pays plus sûr et plus inclusif. 2017. Création du secrétariat 2ELGBTQI+ pour faciliter l'intégration des considérations 2ELGBTQI+ dans les travaux quotidiens du gouvernement du Canada. 2017. L'expression et l'identité sexuelle sont ajoutées comme motif de protection dans la loi canadienne sur les droits de la personne. Les personnes transgenres et de diverses identités de genre sont protégées en vertu du Code criminel du Canada grâce au projet de loi C-16 qui reçoit la sanction royale en juin 2017. 2017. Lancement de la toute première stratégie fédérale sur la VFS. Il est temps. La stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe. 2017. Le gouvernement du Canada présente des excuses officielles aux communautés LGBTQ2 pour la purge historique dont elles ont fait l'objet dans les forces armées canadiennes, la Gendarmerie royale du Canada, GRC, et la fonction publique, ainsi qu'aux communautés 2ELGBTQI+. 2017. Publication en novembre 2017 du rapport provisoire de la Commission chargée de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. 2018. La Cour fédérale approuve l'accord de règlement définitif du recours collectif contre la purge LGBT. 2018. Loi sur la radiation de condamnation constituant des injustices historiques pour les infractions admissibles impliquant une activité sexuelle consensuelle entre personnes du même sexe. 2018. Le Canada lance la toute première politique d'aide internationale féministe afin de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. 2018. La Semaine de l'égalité des sexes est célébrée pour la première fois. Elle a lieu chaque année pendant la quatrième semaine de septembre. La loi sur la Semaine de l'égalité des sexes reçoit la sanction royale le 21 juin 2018. 2018. Promulgation de la loi canadienne sur la budgétisation sensible au sexe, consacrant l'engagement du gouvernement à prendre des décisions qui tiennent compte des répercussions des politiques sur divers groupes de Canadiennes et Canadiens. 2018. Femmes et égalité des genres Canada devient un ministère en vertu de la loi et reçoit le mandat élargi de faire avancer l'égalité en ce qui concerne le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre. 2018. Le Parlement adopte la loi sur l'équité salariale pour que les femmes et les hommes travaillant dans la fonction publique fédérale et les organismes sous réglementation fédérale jouissent d'une rémunération équitable. 2019. Le projet de loi S3 est adopté. Il élimine toutes les iniquités connues restantes fondées sur le sexe en vertu de la loi sur les Indiens. 2019. Abrogation des infractions relatives aux relations sexuelles anales, au vagabondage et aux maisons de débauche. 2019. Annonce d'une programmation ciblée pour les communautés 2ELGBTQI+, notamment le Fonds de développement des capacités communautaires et la promotion des droits 2ELGBTQI+, à l'échelle mondiale par le biais de la politique d'aide internationale féministe. 2019. Le 3 juin, parution du rapport définitif de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. 2019. Nomination de la première commissaire à l'équité salariale du Canada. Karen Jensen est la toute première personne à occuper ce poste. 2019. lancement de la stratégie nationale de lutte contre le trafic des personnes. 2020. Pour la première fois, un nombre égal d'hommes et de femmes est nommé au Sénat. 2021. Le Canada est le premier pays à fournir des données de recensement sur les personnes transgenres et non-binaires. Pour la première fois, le recensement de la population comprend une question sur le genre et la précision de « à la naissance » à la question sur le sexe, permettant à toutes les personnes cisgenres, transgenres et non-binaires de déclarer leur genre. 2021. Mary Simon devient la 30e gouverneure générale du Canada, la première personne autochtone à occuper ce poste. 2021. Rose Anne Archibald est élue première chef nationale de l'Assemblée des Premières Nations lors de la 42e Assemblée générale annuelle. 2021. Cassidy Caron est élue première femme présidente du ralliement national des Métis. 2021. Au cours de la réunion annuelle fédérale provinciale territoriale, FPT, les ministres responsables de la condition féminine approuvent la déclaration commune pour un Canada sans violence fondée sur le sexe. 2021. Lancement du défi 50-30 visant à promouvoir la diversité dans les conseils d'administration. 2022. La législation visant à interdire les pratiques de thérapie de conversion au Canada entre en vigueur afin de lutter contre ces pratiques néfastes et de protéger l'égalité et la dignité des personnes LGBTQ2. 2022. Adoption du projet de loi C-25 modifiant la loi canadienne sur les sociétés par action. Il oblige les organisations constituées en vertu d'une loi fédérale à divulguer publiquement la diversité de la haute direction et des conseils d'administration. 2022. Lancement du premier plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ du Canada. Bâtir notre avenir avec fierté. 2022. Santé Canada approuve la demande de la Société canadienne du sang d'éliminer la période d'exclusion pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes et de passer au dépistage fondé sur le comportement sexuel pour toutes les personnes qui souhaitent donner du sang et du plasma, indépendamment de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. 2023. Le taux de participation au marché du travail des femmes âgées de 25 à 54 ans atteint un sommet historique de 85,5%. 2024. Général Jenny Carignan devient la première femme à occuper le poste de chef d'état-major de la Défense, le rang le plus élevé au sein des Forces armées canadiennes. C'était 22 septembre, Semaine de l'égalité des sexes au Canada. Un texte de la rédaction paru le 15 août 2025 sur le site web Femmes et égalité des genres Canada.
Les parcs éponges, comment ça marche? Un texte de Chloé Bourquin paru le 13 juillet 2025 dans La Presse. De plus en plus de parcs éponges voient le jour à Montréal pour lutter contre les inondations causées par les fortes averses. Comment fonctionnent-ils exactement? Sont-ils réellement efficaces? La Presse fait le point avec deux experts. Qu'est-ce qu'un parc éponge? À première vue, un parc éponge ressemble à n'importe quel parc, à quelques détails près. Le parc éponge et ses rues adjacentes sont conçus de telle sorte qu'en cas de forte pluie, toute cette eau va aller vers le parc plutôt qu'être dans les rues et dans les sous-sols des maisons, explique Jean-Luc Martel, professeur au département de génie de la construction à l'École de technologie supérieure ETS. Grâce à sa végétation et à ses aménagements, le parc va pouvoir absorber ou retenir cette eau pendant un certain temps à la manière d'une éponge, afin de soulager le réseau d'égouts. Si la pluie est très forte, le parc pourrait être impraticable pendant quelques heures en raison de cet excès d'eau. Mais le reste du temps, c'est un parc où on peut se détendre et pratiquer des activités. Comment ça marche exactement? Dans un parc, le sol perméable permet à l'eau de s'y infiltrer et d'y être absorbée par les plantes, réduisant ainsi le ruissellement. Les parcs éponges sont parfois en forme de cuvette ou munis de rivières artificielles asséchées qui se remplissent lorsque l'eau s'y déverse. C'est, par exemple, le cas du parc Pierre-Dansereau, aménagé au cœur du campus MIL de l'Université de Montréal, dans l'arrondissement d'Outremont. Certains sont également équipés de bassins et de régulateurs de débit qui peuvent être fermés pour stocker l'eau temporairement. Une fois la pluie passée, le parc peut se vider lentement en 24 heures environ, estime Jean-Luc Martel. En chiffres, source Ville de Montréal. 627 000 litres. Quantité d'eau que le parc Pierre-Dansereau est capable de retenir et d'absorber, soit le quart d'une piscine olympique. 3 400 000 litres. Quantité totale d'eau que l'ensemble des espaces publics et parcs éponges montréalais, déjà aménagés ou en phase finale d'aménagement, sont capables de retenir et d'absorber, soit l'équivalent de 1,3 piscines olympiques. Combien y en a-t-il à Montréal? En 2023, Montréal avait annoncé vouloir aménager une trentaine de parcs éponges au cours des deux années suivantes, en plus des 7 déjà présents sur son territoire depuis 2022. Il existe aujourd'hui une douzaine d'espaces publics et de parcs éponges à Montréal, aménagés ou en finition, et 19 autres en construction ou en processus d'appel d'offres. Plusieurs sont en phase de conception ou de planification, indique la ville. Le parc Montcalm, dans le quartier La Petite Patrie, fait partie de ceux qui sont actuellement en travaux. Il sera revégétalisé et des bassins pour recueillir l'eau de pluie y seront aménagés. Les travaux devraient se terminer au cours de l'été 2025. Selon Jean-Luc Martel, chaque fois qu'un parc nécessite des travaux, on peut songer à le transformer en parc éponge, surtout si son emplacement ou ses caractéristiques s'y prêtent déjà. Ce n'est pas de la rocket science, mais il faut prendre le temps d'y penser, indique-t-il. D'autant plus que sur le long terme, on économise en dégâts évités, ajoute-t-il. Sont-ils efficaces? Nos observations sur le terrain confirment que l'eau se dirige bel et bien vers les endroits souhaités lors de fortes pluies, affirme Hugo Bourgoin, porte-parole de la Ville de Montréal. C'est également ce qu'a constaté Sophie Duchesne, chercheuse au Centre Eau, Terre, Environnement de l'Institut national de la recherche scientifique, INRS. Elle et son équipe ont réalisé des tests sur la place des fleurs de macadam en ouvrant des bornes-fontaines situées à proximité. 120 000 litres d'eau ont été déversés dans le square. Cette quantité d'eau équivaut à une pluie rare cumulant 51 mm en 3 heures. Résultat, on a observé que 98 % de la quantité d'eau a été absorbée, indique-t-elle. À titre de comparaison, cela correspond à la quantité de pluie qui s'est abattue très tôt le matin sur Montréal, le 9 août 2024, en l'espace de quelques heures, quand les restes de la tempête Debbie sont passés sur le sud de la province. Après une brève accalmie, en fin d'après-midi, le déluge avait repris de plus belle, avec plus de 60 mm tombés en 3 heures. Au total, ce sont 150 mm de pluie qui se sont déversés sur le centre-ville de Montréal ce jour-là, provoquant des inondations, des autoroutes fermées et de nombreuses pannes d'électricité. Est-ce une solution miracle? Les parcs éponges, ça fait partie des stratégies qu'on développe pour être plus résilients face au changement climatique, indique Jean-Luc Martel. Mais ça ne va pas régler tous nos problèmes. Au fil des années, les villes sont devenues de plus en plus imperméables avec l'aménagement de nombreuses surfaces bétonnées ou asphaltées qui empêchent l'eau de s'infiltrer dans le sol. Le problème, c'est que dans les années à venir, les fortes pluies risquent de devenir plus fréquentes et plus intenses en raison des changements climatiques. Et le réseau d'égout n'a pas été conçu pour recevoir autant d'eau. Mais les parcs éponges viennent s'ajouter à d'autres aménagements urbains comme les toits verts, le désasphaltage, les bassins de rétention, les trottoirs ou autres rues éponges et qui peuvent permettre de capter l'eau et de soulager le réseau. Ensemble, ces mesures peuvent faire une différence sur la résilience de nos villes, croit Jean-Luc Martel. C'est le cumul de ces stratégies qui permettra d'avoir un impact significatif, espère-t-il. C'était Les parcs éponges. Comment ça marche? Un texte de Chloé Bourquin, paru le 13 juillet 2025 dans La Presse.